Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous rencontrer ce matin à nouveau pour une nouvelle méditation et bienvenue sur le site Bible Espoir. Voilà, j'aimerais intituler notre réflexion puisque c'est les temps de la Pentecôte et j'ai titré tout simplement le message qui suit « Le Consolateur divin ». Alors à ce titre, j'aimerais tout simplement partager quelques textes bibliques qui vont nous entretenir. Et je vous propose simplement d'ouvrir l'évangile de Jean au chapitre 14. Et nous allons en effet lire un texte qui nous parle de ce consolateur qui vient de Dieu envoyé sur les chrétiens, sur les enfants de Dieu. Alors, chapitre 14, verset 15. Il dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Un deuxième texte, il dit ceci, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Encore un peu plus loin, il est dit ceci, « Pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus de conclure sur ce paragraphe, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Si nous allons maintenant dans toujours l'évangile de Jean au chapitre 15, nous avons tout simplement cette parole au verset 26, et c'est Jésus qui poursuit en ce qui concerne, l'explication de qui est le Consolateur. Quand il sera venu, quand le Consolateur sera venu, je vous enverrai de la part que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et terminons nos lectures à travers le chapitre 16, et il est dit ceci, à travers le verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir, prophétiques. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà pour la situation. Nous pouvons dire en préambule que Jésus fait deux promesses à ses disciples. La première, c'est finalement ce soutien de l'Esprit-Saint pour réaliser des miracles, des choses surnaturelles, ce qu'on appelle tout simplement les dons de l'Esprit. Et en parlant des disciples, il est précisé, ils feront de plus grandes œuvres que moi j'en ai fait, parce que tout cela s'inscrit dans le temps et dans l'espace, et nous savons que près de 2000 ans, ou plus de 2000 ans maintenant, à travers les ministères pastoraux, prophétiques, évangélistes, etc., etc., il s'est fait un travail considérable. Et nous voyons que la deuxième promesse, c'est l'assurance que la prière des églises, la prière des disciples authentiques, eh bien, seront exaucées. Voici la condition morale qu'ils doivent, que les disciples, les suivants de Jésus, doivent remplir pour recevoir, eh bien, la promesse. Et nous voyons qu'elle sera encore plus glorieuse que tout le reste, et je parle de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, dira Jésus à ses disciples, eh bien gardez mes commandements, parce que si vous gardez mes commandements, eh bien je vous donnerai le nec plus ultra que je réserve pour vous dans le ciel, et ainsi dans votre vie spirituelle, dans votre service pour le royaume de Dieu, eh bien vous verrez qu'il y a là quelque chose, eh bien, d'inimitable. Et c'est une preuve d'amour, parce que aimer Dieu, c'est garder, c'est-à-dire être. Sera véritablement doté, accompagné, eh bien, ses suivants, ses disciples, ceux qui, eh bien, aiment Dieu, eh bien, ils auront en effet, eh bien, quelque chose de tout à fait particulier qui n'a jamais été donné dans les autres époques. Cette communion d'amour et d'obéissance dispose le cœur des chrétiens à la réception et à l'action du Saint-Esprit. C'est une seule et même chose. Et Jésus d'ajouter, alors, eh bien, je prierai le Père, je prierai mon Père céleste, ce Père qui est appelé le Père de lumière, duquel toute grâce excellente, eh bien, vient, et tout don parfait descend d'en haut. Nous savons que la grâce de Dieu, eh bien, c'est pas la terre, c'est pas ce que peut donner la terre, avec toutes les qualités, eh bien, de l'humanité, mais c'est véritablement quelque chose qui vient d'en haut, confirmant, eh bien, ce que Jean-Baptiste avait dit au départ, et qui affirme prophétiquement, selon Matthieu chapitre 2, il, en parlant de Jésus, il vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, que l'on appelle, et qui s'appelle en grec, qui se détermine dans la langue grecque, parakletos, paraclète, appelé, celui qui est appelé auprès d'eux, qui peut porter aussi, eh bien, ce qualificatif de avocat. Il est notre avocat, il est notre défenseur, celui qui nous aide. Il est un autre soutien pour les croyants, toujours à leur portée, toujours prêt à leur venir en aide dans leurs luttes et difficultés existentielles, pour les secourir dans leurs faiblesses. Il est à la fois conseiller dans leurs épreuves, et c'est pour ça qu'il est appelé le consolateur dans leurs souffrances. Le Saint-Esprit sera et fera pour les disciples, pour tous les croyants, disciples de tous les temps, ce que Jésus a été et ce qu'il a fait de son vivant. C'est pourquoi il est dit à un moment donné, ils feront de plus grandes choses que moi je n'ai faites devant eux pendant ce temps restreint de 3 années où Jésus, eh bien, est venu sur la terre pour prêcher le royaume de Dieu. La présence de Jésus va devenir éternelle par le Saint-Esprit. Ainsi, il demeure à jamais avec vous. Il demeure, et nous pouvons le dire pour nous-mêmes, il demeure avec nous tous les jours. C'est l'ami, il est notre lumière, il est notre plénitude, et il est appelé aussi l'esprit de vérité, ou tout simplement l'esprit de la vérité. La parole divine révélée dans la Bible dit la vérité. C'est une parole d'authenticité, c'est une parole de vrai, laquelle rétablit dans le vrai tout ce qui est faussé en nous, tout ce qui est faussé dans l'humanité, en un mot, eh bien, offrant aux disciples l'assurance qu'il ne laissera pas orphelin. Et le meilleur gage d'assurance, c'est cette consolation consécutive à cette séparation, c'est-à-dire le consolateur. Nous savons que Jésus est venu pendant une trentaine d'années, 3 ans de ministère intensif, et puis il est parti. Mais il ne nous laisse pas seuls, il est venu pour nous dire qu'il envoie, eh bien, sa présence, sa personne, eh bien, sous les auspices, eh bien, de l'Esprit. L'Esprit, ça ne se voit pas, mais l'Esprit, c'est véritablement une réalité. Et Jésus accorde cette chose, je viendrai à vous, je viendrai en vous, je serai avec vous dans nos grandes peines, dans notre apaisement nécessaire. Il y a là une sérénité sans égale. Pour le monde, Jésus est mort. Nous savons naturellement, puisque, eh bien, au moment de Pâques, il nous est dit qu'il est mort sur la croix de Golgotha. Donc, pour beaucoup, pour le monde, eh bien, il est mort, et comme s'il n'avait jamais existé. Par contre, pour tout croyant évangélique, tout croyant nous pourrions dire, eh bien là, qui suivent sincèrement la personne de Jésus, même si Jésus est parti, il reste vivant en eux. Vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi, dit-il. Le Saint-Esprit de vérité qui habite dans nos cœurs et dans nos corps témoigne de la résurrection de Jésus, de notre prochaine résurrection et d'un esprit vivant impérissable. Passons maintenant à cette, description. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, fonde nos certitudes de foi. Au verset 20, il est dit, et ce que nous avons lu, « Vous êtes en moi et vous connaîtrez que je suis dans le Père, car le Père et le Fils ne font qu'un seul. Vous êtes en moi et je suis en vous. » Jésus partit corporellement, les chrétiens apparaissent comme le corps spirituel de Christ. Au verset 21, il est dit ceci, « La démonstration de l'amour véritable se réalise par l'obéissance à ce qu'il commande. Aimer, c'est obéir, et aimer le Père a pour but, le fruit a pour fruit, l'approfondissement de notre connaissance du Fils et réciproquement. » Si quelqu'un m'aime, dira Jésus, il gardera, il conservera, il aura en effet le souci eh bien, de faire tout simplement du message de Jésus, du message de l'Évangile, la priorité des priorités dans son existence. Avec cette suprême et insigne privilège inspiré par l'Esprit, l'Esprit Saint, d'être l'habitation et plus encore le temple de Dieu. C'est ce que nous dit en effet eh bien, l'épître de Paul aux Éphésiens, il dira « Mais Dieu a fait de vous, dans votre corps, le temple du Saint-Esprit. » La Pentecôte venue, et ce que nous trouvons dans le livre d'histoire de Nouveau Testament, la Pentecôte venue, eh bien Dieu a envoyé le baptême dans le Saint-Esprit, et Dieu se révèle tout simplement, eh bien révèle l'Esprit-Saint, parce que cet Esprit nous éclaire. Parce qu'il régénère, parce qu'il sanctifie ceux qui appartiennent à Dieu. Le monde incrédule ne reçoit pas cet Esprit Saint parce qu'il ne le voit pas. Et dans, en effet, la nature humaine, eh bien, nous agissons avec ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons, ce que nous goûtons, etc., les cinq sens. Mais nous voyons que le monde, eh bien, ne peut avoir accès à tout cela. Il a besoin, finalement, de voir et il faut y ajouter la raison dans tout ça. Il est sans discernement. Le monde ne le connaît pas, cet Esprit Saint, parce qu'il n'a pas cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Et nous voyons que le monde reste étranger, fermé à cette influence de l'Esprit. La différence est clairement établie, parce que Jésus le dira, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi, eh bien, ils ne peuvent pas connaître la dimension spirituelle des choses. Ils demeurent dans l'ignorance, le monde, les hommes demeurent dans l'ignorance, tandis que nous, les chrétiens, nous qui croyons, eh bien, c'est par là que nous connaissons, et ça c'est bien marqué, je crois, par l'épître de Jean, l'esprit de la vérité, et parce que nous discernons l'esprit de l'erreur, parce que nous savons discerner l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Aucune confusion possible. Ce monde réfractaire fonctionne avec ses instincts, avec ses sens charnels, les croyants, avec leur foi, avec... Et c'est par la foi qu'on reçoit l'Esprit de vérité. Durant 3 années, au contact avec Jésus, les 12 apôtres avaient déjà respiré la sublimité du Saint-Esprit, témoin des actes miraculeux de Jésus, de la vie de Jésus-Saint, de ses sublimes enseignements. On pense aux paraboles et on pense à tout ce que Jésus a donné au monde de sa parole. Par la repentance, leur conversion au Christ, c'est-à-dire la conversion des véritables authentiques chrétiens, donc conversion, parce que c'est Christ qui les a appelés, l'Esprit était déjà la manifestation et avait encore mieux quand Jésus leur dit « Il sera en vous et non seulement avec vous ». Et ça, c'est quelque chose de très important pour chaque chrétien de savoir que Jésus n'est pas notre compagnon seulement, il n'est pas notre ami seulement, il n'est pas à nos côtés seulement, mais il est à l'intérieur de nous, et non seulement, donc, avec nous. La Pentecôte perpétuelle, par l'effusion, et ça s'appelle tout simplement la Pentecôte perpétuelle, par l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême dans l'Esprit. Ça, c'est une autre doctrine, c'est un autre enseignement qui nous est donné à travers l'expérience qui nous est rapportée dans Actes chapitre 2, parce que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, est le parler en langue, selon ce que Jésus avait promis avant son enlèvement, après la croix, naturellement. Dans Marc 16, il nous est dit « Les hommes, les chrétiens parleront de nouvelles langues. » Jésus allait bientôt quitter la terre. Son absence corporelle était pourtant loin d'être une rupture, mais un prodigieux partage, on peut dire peut-être même un héritage, où il n'offrirait plus la visibilité de sa présence parmi les hommes, auprès des hommes, auprès des chrétiens en particulier, mais rendait celle-ci universelle, la rendait invisible, réelle, mais par l'esprit, dans l'esprit, donnant, après la vue, parce que nous marchons par la vue, cette qualité, ce miracle perpétuel, ce qu'on appelle la foi, car si longtemps Dieu a établi sa demeure visible, on pense au tabernacle, on pense au temple dans l'Ancien Testament, alors, avec le Nouveau Testament, Dieu a habité temporairement ici-bas, par et dans la parole qui a été faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il nous est dit tout simplement dans l'évangile de Jean, il nous est dit que la loi a été révélée par Moïse, mais la vérité et la grâce a été manifestée par Jésus-Christ. Maintenant, suite à la croix, la résurrection et l'ascension, Jésus promet de faire de chaque fidèle sa demeure intime, son temple, en vous. Ce n'est plus la manifestation extérieure éclatante ou redoutable, ça dépend naturellement, mais la révélation intérieure de la grâce. Le feu brûle désormais caché des regards à l'intérieur et trahit glorieusement que ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, tout simplement, et Jean-Baptiste le dit d'une manière très claire, en parlant de Jésus, lui vous baptisera du Saint-Esprit, nous viendrons à lui, Père et Fils, et nous ferons notre demeure chez lui, c'est-à-dire en nous. Ainsi, ce n'est plus l'homme qui monte au temple, comme nous le voyons si souvent et dit dans la Bible, mais c'est le temple qui descend en lui, dans l'homme, devenant le temple de l'Esprit. Le jour approche où Dieu va inaugurer son nouveau temple et il sera éternellement en eux qui, cette source d'eau vive, et nous savons qu'elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Voici quelques textes à l'événement que vous pouvez lire, que vous pouvez méditer, parce qu'il conclut tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Et dans Luc, je cite tout simplement, il est dit « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Jésus qui parle. « Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors, c'est un message qui est une incitation à prier Dieu, à savoir que le Consolateur dont nous avons parlé est celui qui nous accompagne tous les jours, même si nous ne le voyons pas, même si nous n'avons pas de ressenti particulier, mais il se manifeste comme Jésus s'est manifesté visiblement, mais là, c'est une manifestation dans l'invisible qui a des réalités, des actes, des faits. C'est bien dans le domaine concret. Et nous voyons que la guérison divine, nous voyons que tout ce surnaturel pour ouvrir les yeux des aveugles, et toutes sortes de choses, la multiplication des pains, etc., tout ce que nous trouvons dans l'Évangile, est véritablement non plus l'œuvre de Jésus, puisqu'il n'est plus sur terre, mais l'œuvre du Saint-Esprit à travers les églises évangéliques, les églises de l'Évangile plutôt, à travers ceux qui prêchent le royaume de Dieu. Je pense à tous les évangélistes, je pense à tous les pasteurs, je pense à tous les missionnaires d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ils peuvent recourir à Dieu en utilisant le nom de Jésus, parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit va nous accompagner pour véritablement prouver le témoignage au monde entier et amener des conversions des hommes qui vont être touchés profondément à ce tourner vers Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et ainsi, à donner les preuves dans ce que, eh bien là, nous avons de plus beau et de plus d'important, de responsabilité dans ce monde, c'est véritablement travailler avec le Père, travailler parce que le Fils a payé le prix sur la croix du calvaire en mourant, mais il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, eh bien là, nous voyons que le message de l'Évangile se concrétise par des faits, par du surnaturel, par des miracles, par des choses extraordinaires qui amènent à la fois le salut des âmes, mais qui amènent aussi, eh bien là, toutes sortes de choses dont les hommes ont besoin, et nous comprenons maintenant que nous sommes invités, eh bien, à nous tourner vers Dieu, à le prier pour qu'il nous baptise du Saint-Esprit, pour qu'il nous donne, eh bien, cette réalité qui est celui qui nous console, celui qui vient en aide, notre avocat pour nous défendre, alors que Dieu nous bénisse, et qu'ainsi, eh bien, nous puissions faire des progrès, nous puissions vraiment découvrir tout, non pas seulement les mystères de Dieu, mais toutes les grâces qui accompagne, eh bien là, ce que Jésus a voulu, véritablement veut encore nous donner. Merci à tous et à bientôt.